Amigo, ça y est, Paris est au sommet. Après toutes les promesses non tenues et les humiliations, malgré les stars et les millions, le chemin vers la gloire n'a rien eu d'une promenade de santé, mais l'émotion aujourd'hui n'en est que plus brûlante. Avec un PSG reconnecté au football, des joueurs talentueux et affamés, guidés par un technicien à la tactique vibrante, oui, Paris a gagné la Ligue des Champions. Et ça, que l'on aime le PSG ou non, on ne peut que s'en réjouir vu l'état dramatique de notre football français. Bon, après, on n'est peut-être pas obligé de l'avouer à tout le monde, rassure-toi. Mais une mission encore plus ardue attend le club de la capitale désormais. Rester au sommet. Devenir un géant à l'échelle de l'histoire du football. Si Paris veut devenir un jour l'égal des plus grands de ce sport, ce trophée ne doit être que le premier d'une longue série. Et pour ça, il va falloir continuer de travailler patiemment et intelligemment. Du coup, aujourd'hui, je te propose mon mercato idéal pour la suite de cet alléchant projet. Avant de parler recrues, plantons tout d'abord le contexte. On voit enfin une synergie dans ce club, une harmonie avec un coach ayant les idées tactiques et le bagage psychologique nécessaire pour mener une équipe de haut niveau. Des jeunes joueurs qui viennent au PSG pour parfaire leur évolution et s'intégrer dans un projet global sans prétention et avec l'envie de prouver à très haut niveau, et un directeur sportif capable de donner les joueurs adéquats à son coach. Et ce, sans forcément aller chercher les noms les plus évidents. Donc aujourd'hui, on va essayer de donner de la continuité à cette philosophie. D'une, parce que ça marche. Et de deux, parce que c'est ce que j'ai toujours réclamé dans mes mercato idéaux du PSG. Les vrais savent. Pour ce qui est du budget, on ne devrait pas avoir trop de soucis cette année. Les finances sont boostées par cette campagne en Ligue des Champions et la participation au Mondial des clubs. Là aussi, il y aura de l'argent à aller chercher avec de bonnes prestations. Donc même avec l'incertitude autour des droits TV en Ligue 1, le PSG peut aborder assez sereinement ce mercato. Aux dernières nouvelles, le budget était autour de 160 millions d'euros, mais j'imagine qu'avec les ventes, on pourra aller encore un petit peu au-dessus si besoin. De quoi aujourd'hui bâtir un effectif plus complet, car si la qualité est présente au PSG aujourd'hui, et je suis persuadé que cet effectif a encore une belle marge de progression, qui plus est, à certains postes, je trouve que la quantité fait défaut. Allez, on commence avec les gardiens et du nouveau par rapport à mon dernier mercato, Donnarumma a eu le déclic. Lui-même le dit, depuis son énorme choc avec Singo, il est devenu plus agressif et plus confiant en lui. Il arrive enfin à exploiter ses qualités. Cependant, je ne suis toujours pas un grand fan de lui. Je trouve qu'il a toujours des lacunes en dehors de sa ligne, dans le jeu au pied, dans le jeu sous pression. Mais maintenant, il a un vrai statut et avec la campagne de Ligue des Champions qu'il nous a sortie, ce serait incongru de ne pas le garder et de ne pas le prolonger. Et à 26 ans, il peut encore progresser. Pour doubler le poste, on a Safonov qui est sous contrat jusqu'en 2029. Je n'ai pas l'impression qu'il ait le potentiel pour devenir numéro 1 à terme. J'ai toujours du mal à comprendre les 20 millions investis l'été dernier, mais il est là et il fait un numéro 2 correct. En numéro 3, on a Arnaud Tenas, mais vu ses qualités et le fait qu'il n'ait plus qu'un an de contrat, je pense qu'il va partir cet été. Il est coté à 4 millions d'euros actuellement, je doute que Paris puisse en récupérer plus. Donc la place de numéro 3 devrait plutôt revenir au jeune gardien italo-brésilien Renato Marin, qui vient de signer un contrat de 5 ans avec le PSG. Et on a également le jeune Lucas Lavallée, qui revient de prêt et qui, je pense, sera amené à quitter le club cet été. À droite de la défense, c'est incomplet. Bon, évidemment, vu la saison que nous a encore sorti Achraf Hakimi, pas besoin d'aller chercher un titulaire, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un pour le faire souffler de temps en temps quand même, et apporter un peu de concurrence. Alors on a le petit Zague qui avait fait des premiers pas prometteurs, mais qui a complètement disparu des options d'Enrique cette saison. Je pense que c'est un joueur qui bénéficierait d'un prêt dans un petit club de Ligue 1 pour voir s'il a vraiment un avenir au club à plus long terme, ou pas. On a Nordi Mukiele qui va revenir de son prêt de Leverkusen. Pour un remplaçant, il a un profil intéressant, mais bon, Enrique n'a pas compté sur lui par le passé, j'imagine qu'il en sera de même cet été, donc à vendre pour 10-15 millions d'euros si possible. Il nous faut donc un second latéral droit, mais on a également besoin d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos. Première solution, on lâche le pognon et on prend deux joueurs très prometteurs, un latéral et un central. Ou, deuxième solution, on prend un joueur capable de jouer aux deux postes. Alors je sais, le PSG cherche un central pouvant jouer à droite. Mais aujourd'hui, c'est mon mercato idéal, mes idées. Si le club croyait en Zagré comme on pouvait le croire l'année dernière, ça irait, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, il nous faut un latéral et un central, d'autant plus que j'anticipe un autre départ dans le secteur défensif. Et ce latéral, pour moi, ça pourrait bien être Malo Gusto. Il n'a pas l'air de totalement s'éclater à Chelsea depuis l'arrivée de Maresca, et encore moins avec le retour de Reece James. Avec Maresca, quand t'es latéral droit, tu joues plus milieu défensif que latéral droit. Ça peut se comprendre. Il est encore jeune, on connaît tout son talent, c'est français, ça connaît la Ligue 1. Si on pouvait le choper pour aller 40 millions max, ça serait pas mal. Allez, on passe à un secteur qui a besoin d'un rééquilibrage global, la défense centrale. Pour la charnière titulaire, à mon sens, pas de souci. Pacho est une grande satisfaction cette saison et il peut encore progresser. Marquinhos, certains aimeraient voir autre chose. Certains gardent cette image du défenseur pas fiable. Pour moi, ça serait une bêtise. Et je pense que comme avec Thiago Silva, ces gens se rendront compte de qui était Marquinhos, de ce qu'il a porté réellement sur le terrain quand il ne sera plus là. Ceci dit, lui mettre un concurrent dans les pattes, je dis pas non. Parce que c'est ça aussi l'exigence des très grands clubs, l'exigence des clubs qui veulent tout gagner sur la durée. D'autant plus que nous n'avons aucun remplaçant droitier disponible. Bon, il y a Skriniar. Mais on sait très bien que le PSG cherche déjà à s'en séparer pour une quinzaine de millions d'euros. À mon avis, ça partira plutôt pour 10 millions vu son âge et son salaire. Je pense pas plus. Pour doubler le poste de Pacho, on a Lucas Beraldo qui a montré de bonnes choses cette saison. Il n'a pas encore l'étoffe d'un titulaire, mais dans la rotation, il a sa place et je pense qu'il peut encore progresser. Presnel Kimpembe, il est là. Il lui reste un an de contrat, il s'est encore blessé récemment. Bon, c'est un enfant du club qui vit des moments difficiles. On va pas chercher à le vendre et j'imagine que rares seront les clubs qui feront le pari Kimpembe cet été de toute façon, surtout vu le salaire qu'il perçoit. Espérons qu'il puisse se rétablir et faire une prépa physique complète cet été pour enfin se relancer, ou sinon on peut envisager une résiliation à l'amiable si le joueur le souhaite vraiment. Pour le côté gauche de la défense centrale, on a également Hernandez comme option, même si je pense qu'il sera difficile de le conserver cet été, on y revient juste après. Bref, il nous faut un central supplémentaire, droitier, très fort à la relance, un jeune ayant déjà montré de belles choses à haut niveau et qui viendra finir sa mue vers le top niveau à Paris. Mon choix numéro 1, et je pense inaccessible cet été, mais je te le donne quand même, c'est Ilia Zabarni de Bournemouth. On a beaucoup parlé de Huysen ces derniers temps, mais à droite de cette charnière centrale chez les Cherries, Zabarni, c'était quelque chose aussi. Mais bon, vu qu'ils ont déjà perdu Huysen, et bientôt Kerkez apparemment, je pense qu'ils vont bloquer Zabarni, ou du moins ne pas se gêner pour en demander 80, 90, peut-être même 100 millions minimum. D'autant plus que lui n'a pas de clause libératoire comme Huysen, donc ça risque de coûter beaucoup trop cher. Alors j'ai vu que les deux noms qui ressortaient le plus dans la presse en ce moment, c'était Thomas Araujo de Benfica et Christian Mosquera de Valence. Bon, on voit que le profil a bien été ciblé par Campos, les deux sont jeunes, droitiers, très bons à la relance. Si on prend tous les jeunes joueurs de moins de 23 ans par qualité de passe, qualité de relance, ces deux joueurs-là ressortent très haut dans le classement. Alors si on veut un peu plus d'agressivité, mieux vaut prendre Mosquera, car Araujo est encore un peu tendre, je trouve. Par contre, d'un point de vue technique, le potentiel est assez fou avec le portugais. Franchement, les deux sont de très belles pistes, et si le PSG signe l'un ou l'autre, franchement, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de choisir. Je veux la totale. Et selon moi, on a un joueur sur le marché qui nous permet de ne pas avoir à faire ce choix. C'est Ousmane Diomandé du Sporting. Avec un Henrique pour lui faire franchir un dernier palier en termes d'intelligence défensive et de placement, ça peut vraiment devenir monumental. On en parlait beaucoup l'année dernière, depuis la hype est un peu retombée alors qu'il n'a jamais cessé de progresser. Dans les grands matchs, il répond présent. Vraiment, au Sporting, c'est le patron. Si on peut le choper pour 50, 60 millions max, l'argent sera plutôt bien investi, je pense. À gauche de la défense, on a une certitude avec Nuno Mendes et un cas à régler avec Hernandez. Nuno Mendes nous a enfin sorti une saison pleine et depuis l'arrivée de Guevara, il est beaucoup moins exposé défensivement, ce qui lui permet d'exploiter totalement ses qualités de contre-attaquant. Et de fait, ça laisse peu de place à Hernandez. Il a 29 ans, un gros salaire, un trop gros CV pour se contenter d'être remplaçant, d'autant plus qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive et d'un point de vue gestion, ça fait cher le remplaçant. Autant le vendre aujourd'hui tant qu'il a encore une bonne valeur marchande, je pense que ça arrangera toutes les parties. Pour le remplacer, de base, je voulais Ryan Aït-Nouri, mais Manchester City l'a pris avant que ma vidéo ne soit montée. Donc je te propose mon plan B en la personne de Miguel Gutiérrez, le latéral de Gérone. C'est encore assez jeune, c'est espagnol, c'est fin techniquement, c'est intelligent, collectivement, défensivement il peut encore progresser, mais il est combatif. Et de toute façon, je pense qu'au PSG, il sera assez peu exposé la plupart du temps. Mendes aussi, défensivement, c'est pas toujours ça, mais dans ce système, et si en plus il y a Guevara devant, ça tient la route. Bref, je pense que c'est un profil qui devrait plaire à Luis Enrique. Alors après, la question, évidemment, est pour n'importe quel joueur que j'aurais pu annoncer à cette position, aura-t-il envie d'être en concurrence avec Nuno Mendes, qui est probablement le meilleur latéral gauche actuellement? Ça, il faudrait lui demander. Mais en tout cas, dans l'idéal, il a le bon profil et il n'a pas un statut de star pour exiger une place de titulaire indiscutable. Son prix n'est pas exorbitant. Normalement, c'est un joueur que tu peux débaucher pour environ 30-35 millions d'euros. Au milieu de terrain, la première chose à faire consiste, selon moi, à se débarrasser des indésirables. Il va falloir trouver un point de chute à Carlos Soler, par exemple, qui n'a pas su s'imposer lors de son prêt à Aston Villa. Il est encore coté à 20 millions et il lui reste 2 ans de contrat. Joueur à vendre pour au moins 15 millions ou à prêter. Aston Villa ne devrait pas lever l'option d'achat pour Marco Asensio. Malgré ses très bons débuts, les Anglais ont vite remarqué que malgré tout son talent, le joueur ne pouvait pas ou ne voulait pas maintenir les niveaux d'intensité nécessaires aux joutes de très haut niveau sur la durée. Il est coté à 20 millions d'euros, il a un nom, quelques bonnes performances encore récentes pour faire rêver des clubs en quête de bling bling. Bientôt 30 ans, je sais pas toi, mais moi je trouve que ça pue le transfert en Arabie Saoudite ou en MLS pour 15-20 millions d'euros cet été. Va falloir également régler le cas de Renato Sanchez, qui le pauvre ne parvient toujours pas à mettre fin à son calvaire. Blessure sur blessure. Donc joueur à vendre, à prêter à nouveau, voire même une résiliation de contrat pour qu'il puisse se trouver un club plus facilement et économiser son salaire. Cependant, peut-être que je suis trop négatif, puisque il commence à y avoir des news comme quoi Benfica serait d'accord pour l'acheter pour 12 millions d'euros quand même, alors qu'il sort d'une saison quasiment blanche. Bon, c'est peut-être un arrangement dans le cadre du transfert de João Neves, ou d'un futur autre transfert, ou de Gonçalo Ramos, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui explique cette potentielle offre, ou peut-être que c'est juste une rumeur bidon. Je l'évoque, voilà, dans un souci de cohérence, mais j'ai du mal à y croire. Sinon, on a Gabriel Moscardo. Vu le temps de jeu famélique obtenu à Reims cette saison, je pense qu'il est bon pour un nouveau prêt. En vrai, vu son âge, un prêt de 2 ans à Braga, club de la Galaxie QSI, réputé pour développer des talents dans un pays où il sera plus facile pour lui de s'acclimater, dans un championnat qui plus est moins physique que la Ligue 1, c'est pas déconnant comme idée, non? Et on a également Kangin Lee, que je ne trouve pas foncièrement mauvais et qui fait un joueur de complément tout à fait correct à mon sens, mais c'est aussi un joueur assez frustrant qui, malgré toute sa bonne volonté, peine à réellement apporter un plus à cette équipe depuis le temps qu'il est là. Après, ça reste un joueur assez coté dans le marché actuel, donc dans l'idéal, j'aimerais bien le vendre pour 25-30 millions d'euros, même 20 millions, au pire, ça passe, tu récupères ton investissement initial, c'est pas non plus catastrophique, et ça te permet d'aller investir sur un joueur plus prometteur, et en plus de ça, ça te libère une place d'extra-communautaire. Donc il nous reste Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, Mayulu et Zaïre Emery. Vu la saison que les trois premiers nous ont sortis, on n'a pas besoin de faire un énorme investissement. Vitinha s'est parfaitement habitué à ce rôle de 6 Regista, et même si j'étais pas trop fan de ce positionnement au départ, j'avoue qu'aujourd'hui je suis plutôt convaincu. João Neves, grosse satisfaction, il s'est imposé direct dans ce PSG avec beaucoup de personnalité, et je pense qu'il peut encore progresser, notamment dans son apport offensif. Fabian Ruiz, que j'ai toujours trouvé utile dans cet effectif, mais un peu limité, aujourd'hui a réussi à s'imposer comme un premier choix. Il est monté en puissance et apporte beaucoup d'équilibre à ce milieu de terrain. Ma seule déception, c'est Zaïre Emery. Vu ses débuts, je ne pensais pas qu'il stagnerait autant cette saison, mais je reste persuadé de son potentiel, je le garde dans la concurrence. Et on a Mayulu qui s'est montré à son avantage lors de ses entrées en Ligue 1, et je ne parle même pas de celle en finale de Ligue des Champions. Un bon espoir pour compléter le roster, impeccable. Mais il me manque quand même un joueur pour parfaire le tout. Un milieu de terrain complet, capable de jouer 6 ou 8 sans aucun problème. Bon, On va être un peu réaliste, on a fait pas mal de recrues aujourd'hui et on en a encore une qui arrive en attaque. Je ne vais pas claquer 100 millions ou plus sur un Tonali ou un Guy Malinche, ce qui en vrai, je l'avoue, m'a bien titillé en préparant ce mercato idéal, mais j'ai fait le choix d'investir avant tout sur la quantité, car le PSG a surtout besoin d'un effectif plus large pour jouer sur tous les tableaux et éviter les blessures. Donc on reste sur notre recrutement à la Luis Campos avec des jeunes cracks prêts à exploser. Alors dans mon mercato idéal précédent, j'avais proposé Ederson de l'Atalanta. Je maintiens que ce serait un super choix, même si on ne sait jamais avec les joueurs qui viennent de l'Atalanta. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer un autre nom, et si vous me suivez sur Instagram, ça ne devrait pas vous surprendre vu que j'en fais la propagande en réel depuis l'année dernière. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je parle du Brésilien Andrei Santos qui devrait revenir à Chelsea après deux très belles saisons en prêt à Strasbourg. 21 ans, parfaitement adapté à la Ligue 1, gros milieu défensif, régulier, gros volume de jeu, beaucoup d'intensité, capable de largement dépasser ses fonctions et d'apporter offensivement. Pour moi, il a tout pour devenir un vrai top player et encore plus dans un cadre comme celui du PSG aujourd'hui. Joueur à acheter maintenant pour une quarantaine de millions avant qu'il n'explose complètement et ne devienne hors de prix, d'autant plus que Chelsea, aux dernières nouvelles, serait ouvert à un transfert. C'est vrai qu'ils ont quand même déjà pas mal de monde au milieu de terrain. Allez, on passe à la ligne d'attaque, une ligne d'attaque que je trouve passionnante. C'est jeune, c'est technique, ça permute dans tous les sens, c'est varié. Dembélé dans un rôle de neuf totalement libre, Ramos pour un profil de neuf un peu plus classique, la possibilité d'opter pour un ailier plus vertical comme Barcola face aux équipes qui laissent de la profondeur, les profils d'ouvre-boîte comme Doué ou Gvara face au bloc bas, le volume défensif également de cette attaque, ça on ne le souligne pas assez je trouve. Franchement, c'est le secteur qui a le moins besoin de retouches à mon sens. Je sais que le grand public veut toujours de la nouveauté, mais perso, s'il n'y a aucun mouvement devant cet été, je ne serai absolument pas choqué. Donc tu l'as compris, devant je garde tout le monde, mais on a quand même trois interrogations. La première, c'est le jeune Mbaye. Si on recrute un nouveau milieu offensif, il n'aura plus aucun temps de jeu, donc je préconise un prêt en Ligue 1 ou en Ligue 2. La deuxième, c'est pourquoi encore 50% de mes viewers ne sont pas abonnés à cette chaîne. Alors vérifie si tu es bien abonné amigo et n'hésite pas à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est hyper important pour l'avenir de cette chaîne. Et la troisième, et c'est la plus importante, c'est le cas Gonçalo Ramos. Si je me mets à la place du PSG, je ne vois aucune raison de m'en séparer. Sauf offre exceptionnelle. Il offre une alternative crédible à Dembélé avec un profil différent, un joueur qui marque 18 buts dans la saison en ayant été majoritairement remplaçant et en ayant été longtemps blessé en première partie de saison, j'appelle ça un remplaçant de luxe. Maintenant, est-ce que Ramos, à un an du mondial, va vouloir rester au PSG en sachant qu'il partira encore derrière Dembélé dans la hiérarchie? Moi, si j'étais lui, j'aurais peur de perdre du temps dans mon évolution. Je préférerais trouver un club qui me fasse pleinement confiance, d'autant que les bons clubs qui cherchent un neuf cet été, il y en a. Mais bon, on est dans mon mercato idéal, donc je le retiens quoi qu'il en coûte, et je vais chercher un ailier droit gaucher. Je pense que c'est le seul profil qui manque devant actuellement. Dans la version initiale de cette vidéo, je m'étais plutôt dirigé vers Mastantuono de River Plate, gros talent que je vous avais présenté l'été dernier dans ma liste des cracks à suivre cette saison. Il a plutôt bien confirmé en Argentine et il est prêt à faire le grand saut. Et ça, tous les grands clubs européens l'ont bien remarqué, et notamment le PSG qui était clairement dessus ces dernières semaines. D'autant plus avec sa clause libératoire à 45 millions d'euros. C'est pas rien, mais c'est quand même une somme plus intéressante, par exemple, qu'Arak Liouche à 80 millions d'euros. Sauf que, le temps que cette vidéo soit montée, il a signé au Real Madrid. Sinon, encore moins cher, on a Ryan Cherki. Dans le profil technique, ça colle aussi. Et en plus, on a bien senti que ça le tentait bien de jouer à Paris récemment.
Est-ce que tu te sentirais bien dans le vestiaire avec ces garçons-là?
Ah oui, je les connais tous. Ousmane, c'est un bon ami à moi. Bradley aussi.
Mais lui aussi me file entre les doigts puisqu'il serait sur le point de signer à Manchester City. Non, vraiment, j'ai jamais eu autant de poisses sur une vidéo mercato idéal. Vraiment, autant de pistes qui s'annulent, mais genre un jour avant la publication, c'est du jamais vu sur l'histoire de cette chaîne. Bref, je me suis remis en quête d'un nouvel ailier droit, gaucher, capable de jouer en 10, jeune, talentueux, qui pourrait accepter de la concurrence, pas trop cher, et qui veut bien laver les crampons de ses coéquipiers à chaque fin d'entraînement. Pas simple. Alors, il y a Greenwood. Bon, je pense qu'il est inutile d'expliquer pourquoi je ne vais pas m'attarder sur cette piste, mais dans le profil, en tout cas, ça matchait bien et ça me faisait rire de l'évoquer. Et sinon, bah, il nous reste plus grand-chose, hein. En tout cas, parmi les joueurs confirmés ayant déjà montré quelque chose à très haut niveau. Ne me dites pas Rodrigo Mora, hein. Je l'aime beaucoup, je le connais très bien. Je trouve qu'il est encore beaucoup trop tôt pour lui avant de prétendre au dernier step. Il doit beaucoup apprendre dans le jeu, collectivement, il doit être plus efficace. Et en plus de ça, je trouve que physiquement, il peut encore se développer. J'ai peur que là, il soit pas encore tout à fait prêt vraiment pour être régulier dans un club de très très haut niveau qui prétend gagner la Ligue des Champions régulièrement. Encore une saison ou deux à Porto, ça ne lui fera pas de mal, je pense. Donc, voilà ce que je propose. Je tente à Cliouche parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai trouvé absolument exceptionnel avec Monaco, vraiment, surtout en première partie de saison, peut-être un petit peu moins en deuxième, mais globalement, grand, grand talent. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un véritable avenir à très, très haut niveau et notamment aussi en équipe de France, même s'il y a quand même pas mal de monde. Mais vraiment, à Cliouche, je crois beaucoup en lui. Mais je le tente pour 60 millions d'euros. Pas plus. Au-dessus, pour moi, c'est vraiment trop, malgré tout le bien que j'en pense, d'un point de vue gestion financière et gestion d'effectifs. Aller mettre un joueur à 80 millions d'euros alors que tu as déjà trois joueurs comme ça qui tournent très bien, je pense que ça peut casser l'équilibre. Et mon plan B, c'est Francisco Conceição. Un petit prêt avec option d'achat à 35-40 millions d'euros. Un prêt seulement, pas un transfert sec, parce que j'ai encore des doutes sur sa capacité à devenir un top player malgré tout le talent qu'il peut avoir. J'ai des doutes au niveau physique, par exemple. J'ai des doutes également en termes de régularité et peut-être parfois en termes aussi d'intelligence de jeu. Je suis pas sûr qu'il fasse encore toujours les bons choix, mais ça reste un très jeune joueur, ça reste un joueur à développer, donc c'est normal qu'il ait encore quelques défauts. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça te fait un super sub de malade. Ça, par contre, ça va être incroyable. On a encore vu sa dernière rentrée là avec le Portugal contre l'Allemagne en Ligue des Nations. Bon, ça c'est sûr et certain, il va t'apporter quand même quelque chose. Ou sinon, plan C, personne. En vrai, la ligne d'attaque est déjà assez fournie, il y a largement de quoi jouer sur tous les tableaux. C'est peut-être pas optimal, mais en vrai, c'est déjà assez conséquent comme ligne d'attaque. Moi, ça me choque pas. Si on ne trouve pas le joueur adéquat au bon prix, bah pourquoi forcer ? N'achetons pas pour acheter. On n'oublie pas Randal Kolo Muani, qui devrait revenir de son prêt de la Juventus. Il a eu une période creuse, mais globalement, il s'est plutôt bien relancé en Italie. Maintenant, s'est-il suffisamment relancé pour qu'un club lâche 60 millions d'euros minimum, comme le PSG doit l'espérer, je pense, afin de minimiser sa moins-value ? Je ne pense pas. Il lui reste encore 3 ans de contrat. Je pense que ça va partir une nouvelle fois en prêt. Sinon, on a le petit Housni qui revient de près du Havre. Bon, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu, je doute qu'il ait un avenir au PSG, d'autant qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Je pense qu'il sera libéré cet été. La balance des transferts, je récapitule avec Gusto, 40 millions d'euros, Diomandé, 50 millions d'euros, Gutiérrez, 35, Andrei Santos, 40, Akliouche, 60. Ça nous fait un total de 225 millions d'euros. Évidemment, ceci est une estimation à la louche. Hein, c'est pas quelque chose de très précis. J'essaie de faire au mieux. Au niveau des départs, on a Arnaud Tenas, 4 millions, Hernandez, 30 millions, Mukiele, 10 millions, Skriniar, 10, Soler, 15, Asensio, 15, ça nous fait un total de 84 millions d'euros. Au niveau des extra-communautaires, là aussi, on est bon, Beraldo, Pacho, Santos, on est à 3 sur 4, on peut même s'en rajouter un l'hiver prochain si besoin. Si le budget mercato initial est bien de 160 millions, comme j'ai pu le lire dans la presse, on est bien dans les clous, et vu qu'on n'est pas sur un recrutement all-star, niveau masse salariale, ce sera plus raisonnable également. Les Asensio, Skriniar, Hernandez par exemple, c'est beaucoup trop cher pour rester sur le banc. Sinon, il y a un autre club qui a montré de grandes choses cette saison avec des jeunes à fort potentiel et qui va devoir bien recruter cet été pour continuer sur cette belle dynamique, avec un peu moins de moyens par contre, c'est le FC Barcelone. Je t'ai déjà fait un petit mercato idéal, tu peux cliquer juste ici pour voir ça. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.